Claude Askolovitch, on parle de mauvais chef ce matin.
Et plus simplement, Nicolas, on parle de con. C'est la une de Society qui, elle, va parler à tous ceux qui savent la vie de bureau. Mon N plus 1 est un con, avec, pour qu'on comprenne bien, la photo d'un mug. Le N plus 1, c'est le supérieur hiérarchique immédiat qui peut être un cauchemar. Marie, qui travaillait dans une filiale de LVMH, pleurait tout un week-end quand elle avait reçu le vendredi ce mail de sa chef. Lundi, il faut qu'on se parle, sans aucune explication. Alors la jeune femme appelait sa maman. Je ne comprends pas, j'ai rien fait. Mais le lundi, il ne se passait rien, la bosse avait oublié. Et chaque matin, Marie se demandait de quelle humeur serait cette femme qui pouvait aussi bien l'appeler mon rayon de soleil que lui hurler dessus et qui lui avait demandé de suivre sa fille sur Instagram. Marie fait désormais du théâtre et elle le jure, plus jamais elle ne travaillera en entreprise. Car au-delà des histoires de chefs que Society raconte, il reste ceci, 10% des salariés de ce pays ont déjà connu le burn-out et notre management serait un des plus mauvais du monde. Emmanuel Macron, tiens, le disait pendant la campagne présidentielle. Cela dit, est-il lui-même un bon manager de ses troupes, notre président, qui a choisi Madame Goulard comme futur commissaire européen et l'a donc envoyé subir les assauts des eurodéputés qui l'ont passé au grill hier lors de son audition. « I am clean », a lancé Madame Goulard, raconte Le Monde. Les échos pensent qu'elle va s'en sortir, mais Libération conclut, personne ne comprend à Bruxelles pourquoi Emmanuel Macron a pris le risque d'envoyer une candidate qui traîne des casseroles qu'il avait contrainte à démissionner de son poste de ministre de la Défense. Le choix, sans doute, du N plus 1. Il est aussi de bons chefs. Mais enfin, tout le monde n'a pas la chance d'être footballeur à Liverpool, champion d'Europe, sous la houlette du craquant Jürgen Klopp, barbe grise, yeux bleus de myope et grosses lunettes, à la une de SoFoot. Jeune Klopp était un footballeur qui savait ses limites. Son cerveau pigeait tout, mais son corps ne suivait pas. Devenu coach à 33 ans, l'âge du Christ, à Mayence, il montait sur une colline pour voir évoluer ses joueurs à l'entraînement. Il les écoute, mais il sait garder la distance. C'est la clé du management. On apprend bien des choses dans le foot, savez-vous, et les entreprises peuvent s'en inspirer. Ainsi, les Américaines, championnes du monde, ont préparé leur mondial en adaptant leur entraînement à leur cycle menstruel. Oui, leurs règles, car les hormones se jouent de nos forces. Je lis cela sur le site Les EcoStart, article signé d'un homme curieux de l'autre moitié de l'humanité, Florent Verret, qui précise qu'il a fait relire son texte par ses consoeurs et qui lève un tabou, celui du corps des femmes dans l'entreprise. Et il dit donc l'énergie qui vient après les règles. Quand les hormones remontent, c'est le moment de lancer des projets. Il dit l'empathie et l'écoute auxquelles l'ovulation rendrait plus apte et le découragement qui guette en phase prémenstruelle. Une ancienne directrice de banque devenue coach conseille aux femmes de savoir ne pas en faire trop, comme Madame Rapineau. Les hommes aussi ont un corps. Dans SoFoot, toujours, je lis que dans les îles anglo-normandes, une compétition est réservée aux gros. On marque des points en marquant des buts, logique, mais aussi en perdant des poids, cela donne des bonus. Je vais essayer.
On parle d'un champion rescapé dans l'équipe.
Et dans le Républicain Lorrain, car il est de Metz, Quentin Bigot, médaillé d'argent au lancer du marteau aux Mondiaux de Doha. Il est rond, barbu, fort et poète. Après cette médaille, dit-il à l'équipe, il a envie. Il est comme un vampire qui a le goût du sang. Il est fort aussi d'avoir surmonté la honte. Il a repris l'athlétisme en 2016 après avoir été suspendu 2 ans pour dopage. Il osait à peine affronter les regards, mais maintenant, repenti, il veut éduquer les enfants. Alors que Bigot revit, je lis la chute d'Alberto Salazar, créateur controversé de champion du monde. Il dirigeait un groupe d'athlètes de très haut niveau, financé par Nike. Il tombe pour trafic de testostérone. Dans le Wall Street Journal et dans le New York Times, j'apprends que le grand patron de Nike, Mark Parker, était tenu au courant des expérimentations de ce groupe et s'intéressait beaucoup à un gel qui pouvait contourner les tests antidopage. Il serait intéressant de déterminer à quelle dose d'hormones mâles on provoque un résultat positif, écrivait le grand patron. Le dopage, cette pollution du sport, semble une fatalité. En France, fatalité encore, Le Point raconte cette haine qui s'abat sur des agriculteurs que des amis de la nature menacent et injurient au nom de la lutte contre les pesticides. La menace, l'attente, autre fatalité, des industries à risque imprègnent l'Alsace, les DNA, le Dauphiné, la Nouvelle République qui pointent les usines Seveso qui ont poussé tout près de chez nous. Libération, qui s'offre ce matin aux géographes, c'est passionnant, mettant une carte de Rouen marquée de rouge, toute entière exposée au risque. Rouen, dont l'ambition écologique a été mise en pièces par l'incendie de Lubrizol, renvoyée à son destin de ville industrielle. Nos cités longtemps été bâties près des usines. Comment y échapper?
Et puis il est aussi, Claude, des fatalités idéologiques.
Et on voit ce matin deux hommes prisonniers mais prospères de leurs obsessions. Éric Zemmour reprend comme si de rien n'était sa chronique du Figaro et déplore à nouveau la fin de l'homme blanc, cette fois aux Amériques. L'Obs, sur son site, je dis bien sur son site, disait que Juan Branco, jeune avocat qui est à une gauche radicale complotiste, ce que Zemmour est à l'extrême droite. Il a écrit au printemps dernier un livre à succès Crépuscule, sur et contre Emmanuel Macron. L'article de L'Obs décrit un homme, Branco, mu par l'ambition et la haine, qui pour ceux de sa vindicte parfois homophobe, le secrétaire d'État Gabriel Attal, qui fut son ennemi au lycée, mais cette obsession a trouvé un public et pour ce public est devenue une explication du monde. Tout ceci est bien laid, existe pourtant. Pour se guérir, lisez plutôt dans le Figaro quelques lignes du nouvel inédit de Marcel Proust, exhumé de dossiers cachés. De l'amour de deux femmes, Proust explorait sa propre homosexualité et cherche le ton, la phrase juste, ces lignes ont la beauté des prémices. Vous lirez aussi dans La Croix, j'en termine, l'éternel miracle de la foi. À Galardon, dans l'Eure-et-Loire, se crée un lieu de pèlerinage, un sanctuaire autour d'une capsule contenant du sang de Sainte Faustine, religieuse polonaise que Jean-Paul II canonisa. Le sanctuaire est dédié à la miséricorde. Nous en avons besoin parfois. Heureux sont les croyants.